Voilà, donc Sœur Marie David a décidé de sous-traiter un certain nombre de séances. Et elle m'a confié la séance sur le béguinage, At the Wake d'Anvers. Il y a déjà une discussion sur la manière dont on prononce, n'est-ce pas? Hedwig, Hadwake, enfin, moi je dis At the Wake comme je peux. De toute façon, c'est mieux qu'à la française, je pense. Maintenant, après cet essai de voix, j'ai vraiment commencé. L'exposé que je vais vous faire se trouve presque entièrement dans ce livre, Il n'y a qu'un amour. On fait un peu de publicité ici, n'est-ce pas? Ah, merci beaucoup, je crois que c'est mieux ce son comme ça, oui, merci Henri. Et puis, les livres d'At the Wake, il faut les trouver, ils existent sur le marché, il y a un certain nombre d'ouvrages avec les visions, avec les poèmes, avec les lettres que vous pourriez trouver facilement en bibliothèque ou en librairie. Vous pouvez même trouver sur internet les manuscrits en moyen néerlandais sur le site de l'université de Gand, magnifiquement présentés, les authentiques, quoi, un siècle après elle. En vieux néerlandais, dites. Voilà. Je voudrais pourtant mettre cette illustre béguine d'abord dans son cadre, c'est-à-dire l'apparition, l'émergence en Belgique des bégards, il y en a eu, des béguins, il y en a eu, mais surtout des béguines et des béguinages. Avant de vous parler de cette personne qui est sans doute la plus représentative, la plus célèbre et qui a écrit les choses peut-être les plus hautes de la mystique rhéno-flamande, dont je parlerai aussi. Donc nous allons nous attacher à ces femmes qu'on a appelées les femmes troubadours de Dieu, on est dans la mystique courtoise aussi, qui font à leur manière le pont entre le haut Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge, c'est, si vous voulez, du point de vue des femmes, Hildegard de Bingen, si ça vous dit quelque chose, Hildegard la Grande. Et puis le pont, donc, avec les 13e ici, et puis 14e siècle, des siècles fastueux pour les femmes. Dire d'un mot ce qu'ont été ces béguins, béguines, béguinages, n'est pas certainement mes possibilités et celles de beaucoup d'autres. On ne sait pas encore très bien, n'est-ce pas, de quoi y retourner. N'empêche que dans notre pays, nous en avons encore les traces architecturales. Aller à Gand, aller à Bruges, aller à Louvain, etc. Il faudrait d'abord se reporter, par exemple, aux grands articles des dictionnaires anciens qui vous montrent comment émerge au XIIIe siècle ce mouvement de renouveau plus ou moins orthodoxe à la recherche d'un style de vie religieuse, chrétienne et religieuse, en dehors du cadre des institutions établies, en dehors du cadre de la médiocrité paroissiale, on se croirait aujourd'hui. Hein. Ce mouvement va se répandre à partir des Pays-Bas. Mais qu'est-ce que les Pays-Bas? En réalité, la première émergence d'un groupe se trouve à Nivelles, autour de Marie Douany. Ces béguines flamandes sont nées à Nivelles. Donc, au partir des Pays-Bas, dans une grande partie de l'Europe, et va compter des dizaines de milliers de béguinages, des dizaines par ville aussi, à la fin du siècle. On parle, à la fin du siècle, du 13e, 14e, on parle de 200 000 béguines, c'est énorme pour l'Europe. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 religieuses en Europe. Il y avait à ce moment-là 200 000 béguines. Initialement, ces associations de femmes, plus rarement d'hommes, ont vécu dans l'orbite cistercienne, puis dans l'orbite des mendiants qui venaient d'être fondés. Selon un des plus grands spécialistes, Van Mierlo, les dominicains s'occupaient surtout des béguines, les franciscains des béguins ou bégards. Volontiers, les béguines se lançaient dans les plus hautes spéculations mystiques. Leur directeur, peut-être pour les guider et les mettre à l'abri des erreurs courantes, les y suivait et les y encourageait. C'est à des auditoires de béguines que prêchait par exemple Eckhart, maître Eckhart, et Tauler aussi au XIVe siècle. se pose aujourd'hui toujours la question de savoir si ce mouvement béguinal a trouvé, oui ou non, ses commencements dans la mystique flamande, qui était par ailleurs une mystique entièrement française, n'est-ce pas, à l'époque. Oui, c'est le nom de la France qui a fait la Flandre mystique. Ou bien si, comme je le crois, les béguines sont liégeoises d'origine. Origine liégeoise des béguines, disait Godefroy Kurt. Dans la bibliographie habituelle, les deux positions sont défendues, sachant que la principauté de Liège allait jusqu'à Nivelles, hein, et jusqu'à Malines aussi. Dans la bibliographie habituelle, les deux positions sont défendues, sans compter que certains historiens plus récents parleront alors globalement du site des Pays-Bas ou du Rhin supérieur. Oui, le Rhin supérieur. N'empêche que c'est tout de même à Liège et dans les Pays-Bas méridionaux que on les a trouvés le plus souvent. Et sans compter, je dis avant de l'oublier, que la dernière béguine est morte il y a peu de temps, n'est-ce pas, en Belgique. La toute dernière béguine est morte à notre époque, il y a moins de 10 ans. Personne, en tout cas, ne conteste l'émergence de centaines de béguinages en Belgique, des deux côtés de ce qui deviendra la frontière linguistique. Même Adowaïk, dont nous allons approcher d'un peu plus près les écrits, si elle est née d'une famille noble des environs d'Anvers, se trouva peut-être à la tête des béguines de Nivelles au roman Pays de Brabant. Elle mourut entre 1260 et 1269, elle était alors âgée soit de 60, soit de 70 ans. Qui était vieux pour l'époque. Saint-Bernard, a-t-on répété avec justesse, peut-être encore la dernière fois dans cette enceinte, avait sauvé de justesse, par l'entrée de sa troupe de parents avec lui, la réforme de Cîteaux. Mais pour certains, ce n'est pas de Bernard qu'est venue à cette époque la véritable nouveauté. Bernard n'est qu'un réformateur, du monachisme bénédictin. Bien sûr, il y a les illustres sermons sur le Cantique des Cantiques qui ont aussi inspiré et permis l'audacieuse mystique amoureuse des béguines. Ils ont lu Bernard. C'est la position ici que je donne du père Dieudonné Dufresne qui a écrit un très beau livre sur les béguines, un livre richement dessiné, libre et folle d'amour, les béguines au Moyen-Âge. Magnifique, très emblématique. Faisons encore remarquer que les écrits des réno-flamands, c'est-à-dire Eckhart, Toller, Suzo, Rusbroek, Jan van Groenendael, hein, c'est Rusbroek, seront lus plus tard par Thérèse Avila et Jean de la Croix, c'est-à-dire par les réformateurs du Carmel. Don Louf, à qui nous devons cette observation, ajoute que les premières carmélites étaient issues d'anciens béguinages, étaient d'anciennes béguines, lorsque ce mouvement commença à décliner. Et de fait, on voit dans la vie de Thérèse Avila qu'elle recueille dans ses carmels un certain nombre de femmes dévotes. Mais ce sont des béguines, en fait. Et Don Louf notait aussi que l'Imitation de Jésus-Christ, écrite sur les mêmes lieux à la fin du XVIe siècle, va, elle, tourner la page de cette mystique extatique pour ouvrir alors celle de la dévotion moderne, tout à fait différente, laquelle ne voudra plus que marcher sur les pas du Christ, mais aura fermé au fond les horizons de la vie contemplative. C'est ce que pensait Don Louf. Voilà une peu d'introduction. Parlons des béguines. À l'encontre des idées reçues, remarquons que, je parle d'abord du XIVe siècle, je viendrai au XIIIe après, remarquons que le XIVe siècle correspond bien à un nouvel âge de la chrétienté. C'est l'âge des libertés arrachées au système féodal. Liberté de commerce, franchise communale. Et l'une des conséquences en sera une certaine indépendance religieuse de l'individu, déjà. C'est le cas en particulier dans la vallée du Rhin et de la Meuse, où les villes populeuses et l'expansion commerciale favorisent la circulation des idées, qui était alors au premier chef des idées religieuses. Autre aspect de cette liberté, beaucoup de femmes d'origine patricienne ou bourgeoise se voient dans la nécessité d'adopter une vie semi-religieuse, faute de pouvoir entrer dans un couvent. Il y a à cela diverses raisons. Pourquoi ne pouvait-elle pas entrer au couvent ? Manque d'une dot suffisante, ou de quartier de noblesse, comme il en fallait à Nivelles, n'est-ce pas ? Il en fallait 16 de chaque côté, hein, pour être une chanoinesse de Nivelles, du temps de Sainte-Gertrude. Donc manque de dot ou de quartier de noblesse, mais aussi refus des ordres religieux masculins et féminins d'ouvrir de nouveaux couvents féminins à l'afflux océanique des vocations. Afflux océanique des vocations. Quel beau temps. Le mouvement béguinal, qui n'est pas exclusivement féminin, se répand des Flandres, en Allemagne et dans le nord-est de la France, Strasbourg. Il n'est comparable par son importance qu'au mouvement de pauvreté des franciscains et des humiliés en Italie du Nord, à la même époque. C'est la même époque, 14e. Aucun d'entre eux n'a été déclenché initialement par des prolétaires, contrairement à ce qu'on dit souvent. Mais ils ont été déclenchés pour répondre à des besoins aussi bien spirituels qu'économiques. La plupart, dans les béguinages qui s'organisent, ayant à la tête une maîtresse, s'engagent, en plus de leur vie de prière et d'austérité, dans des activités intérieures ou extérieures à la communauté. Il y a des travaux manuels, des soins aux malades, la toilette des morts, c'est leur apanage. Aussi peuvent-elles gagner leur vie et finiront-elles d'ailleurs par concurrencer involontairement certaines guildes, qu'est-ce que c'est les guildes, hein, les associations de marchands, syndicats de marchands si vous voulez, dotées par les autorités communales de règles et de privilèges, eh bien elles vont faire la concurrence à certaines de ces puissantes guildes, en particulier celles des tisserands. Notons à ce propos un fait très important, et je trouve que c'est le plus important de cette introduction générale. Les langues vulgaires, sorties du latin ou de l'allemand, s'émancipent en même temps que les communes et que s'établissent peu à peu ces communautés libres de femmes, les béguinages. Ces langues vulgaires, flamandes, allemandes, françaises, trouvent dans les écrits des béguines, ou parfois de moniales proches d'elles, leur première forme littéraire. Tous les premiers écrits en langue vulgaire sont l'affaire de femmes, béguines, en matière de spiritualité. Mais il n'y avait que ça. C'est ce qui explique en grande partie le succès et la diffusion de ces écrits. Ce sont ces femmes qui, avec les auteurs des chansons de gestes, avec les minnesänger, les minstrels et les troubadours, sont à l'origine de nos grandes littératures, grâce à leur libre façon d'exprimer la fraîcheur et la vigueur des choses, et des choses de l'amour, dans une langue vivante et en voie de création. C'est le cas de Julienne de Cornillon, n'est-ce pas, qui n'était pas béguine, mais qui appartient à cette mouvance, 1191-1258, sa vie, éditée pour la première fois il y a peu par un certain Jean-Pierre Delville, qui deviendra ensuite évêque de Liège, sans doute à cause de ça, eh bien, sa vita a été rédigée d'abord en wallon liégeois, par son amie recluse, Ève de Saint-Martin. C'est le premier écrit dans cette langue romane, etc., etc. On peut faire 10 fois la démonstration. Voilà, nous sommes dans une mystique affective qui avait pris la parole pour la première fois à l'infirmerie de Clairvaux, chez Saint-Bernard, dans les années 1128, avec Bernard et Guillaume de Saint-Thierry, qui est un liégeois, remarquez-le. Eh bien, ils ne sont pas les seuls témoins de cette nouvelle sensibilité religieuse. On peut citer d'ailleurs une nuée d'auteurs masculins, c'est vrai. Du temps de Saint-Bernard, Hildegard de Bingen, par exemple, n'est pratiquement pas touchée par cette nouvelle spiritualité amoureuse. Elle est surtout visionnaire, c'est pas la même chose. C'est un bon droit qu'on appelle la prophétesse teutonique. Mais pour le père Verdeyen, un autre grand spécialiste de Béguine, au XIIIe siècle, non au XIIIe, les grands témoins de la mystique affective sont des femmes. Adelaïde d'Anvers est sans aucun doute la plus originale et la plus grande du point de vue littéraire. Un demi-siècle avant Dante, un demi-siècle. Il faut nommer aussi la béguine Mechtilde de Magdebourg et les sœurs bénédictines d'Elfta, surtout Gertrude la Grande, sans parler de Claire d'Assise, Angèle de Foligno et Marguerite Porrette, qui va mourir sur le bûcher. Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle meurt sur le bûcher à Paris? C'est bien parce que son miroir des âmes simples et anéanties n'était pas écrit en latin, mais en français, ce qui fait qu'il a été très répandu. Lecture de Magdebourg, si vous aimez, vous irez lire « Comment suivre Dieu quand Dieu n'est pas là ?»« Comment suivre Dieu quand Dieu n'est pas là ?» Magnifique. Voilà. Oh, c'est le siècle de la Dorique d'Anvers. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces béguines, de ces espèces d'orphelines de naissance, comme dit le père Dufresne ? Aucune stratégie pastorale, aucune urgence économique, aucun manque d'hommes liés aux croisades, non ? ne peut rendre raison de cette émergence. Voici donc que dans les contrées liégeoises apparaissent Marie Douany et les siennes, puis, en même temps que cette Adoïde dont je vais reparler, Ide de Nivelles, les béguines de Louvain, le béguinage 1232, les béguines de Gand 1234, et puis les centaines d'autres béguinages qui, au milieu du XIIIe siècle, vont couvrir les Pays-Bas hollandais, le Bas-Rhin, le sud de la France et l'est de la France, mais aussi le nord de l'Italie. Donc de ce point de vue, il faut quand même rappeler que en Belgique, nous avons 13 béguinages reconnus comme patrimoine mondial par l'UNESCO, hein, encore aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont survécu. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'émergence de ces troncs de femmes mystiques, minones mystiques, mystiques de l'amour, emportées vers un nouveau printemps? Parlons un moment des béguinages comme architecture, puis comme ensemble spirituel. C'est une ville dans la ville, le béguinage. Ce sont des enclos qui forment une unité d'habitation et de travail. Vous avez sans doute vu le béguinage de Bruges. On y trouve l'église, l'infirmerie, les ateliers, la ferme, la boulangerie, etc. Une ville dans la ville. Puis des maisons individuelles et une ou plusieurs maisons conventuelles, des couvents, qui sont réservés aux moines nantis. Parce que dans les petites maisons conventuelles, les petites maisons individuelles, la dame entre avec sa servante. On est deux, hein, la dame et sa servante. Eh bien non, dans les couvents, ce sont des femmes isolées qui entrent. Tout cela est entouré de hauts murs et accessible par un portail d'entrée qui, lui, est soigneusement gardé le jour et fermé la nuit. Les premiers béguinages ont été installés hors les murs. Il fallait donc qu'ils soient fermés la nuit. Encore aujourd'hui, le béguinage de Bruges, la porte est fermée à 6 heures, hein, aussi pour les habitants qui sont dedans. Souvent, le béguinage est érigé en paroisse autonome, avec son curé, ses revenus, son cimetière. Chaque porte, parce qu'il y a plusieurs portes à l'entrée, mais aussi une seule qui est gardée, mais chaque porte de maison plutôt, et surmonter une petite niche, vous les avez vues, peut-être, dans laquelle se trouve le saint protecteur de la maisonnette. Un jardinet est entretenu par la béguine et il sépare souvent sa maison de la ruelle, une petite ruelle. Ce jardin clos correspond à la mystique, hein. Je suis un jardin clos, la bien-aimée du cantique, correspond lui-même aussi à des œuvres d'art qui vont devenir célèbres au XVIe siècle. Il y a eu à Bruxelles, il y a quelques années, une exposition sur le jardin clos de l'âme, dont je vous ai apporté le catalogue, merci, fabuleuse exposition. Et on voit ces représentations de jardin clos de l'âme qui sont des petits bricolages avec des morceaux de pierre, de bois, etc. On représente mystiquement son âme, si vous voulez. Alors, le lien entre la spiritualité et l'architecture est ici très intéressant. Les enclos sont des constructions remarquables qui n'ont jamais été imitées, sauf de nos jours, quand on essaye maintenant de refaire des béguinages laïques. D'où est venue l'inspiration d'édifier de tels ensembles? Le mystère reste entier et insoluble aujourd'hui. Par leur uniformité, les habitations dénotent la modestie de ce genre de vie. Toutes les mêmes, hein, sont petites, sont semblables, elles sont meublées sobrement, au moins au début, parce qu'il y a toujours des dérives. Et on suit pour la construction des règlements stricts en ce qui regarde la nature du matériau, ou l'alignement, et la taille du jardin. L'enclos doit donc refléter la paix et la quiétude. Les églises suivront les mêmes principes de sobriété. Petit cœur, nef longue, bas-côté large, qui en font un espace approprié à une communauté qui ne fait pas un chant antiphonique, comme dans les monastères où on se répond, hein, mais dont les membres se placent dans la nef, comme les cisterciens, comme le peuple. Plus tard, les églises seront baroques, évidemment, et puis la plus belle est certainement l'église Saint-Jean-Baptiste de Bruxelles. La plus belle de toutes les églises de Béguinage, c'est celle-là. Alors, dans l'ouvrage dont je parlais à l'instant, un des auteurs définit la spiritualité béguinale comme un entre-deux. On est là entre deux types d'expériences religieuses, l'expérience monastique et l'expérience séculière, l'active et la contemplative, si vous voulez. Il y a bien sûr un vrai retrait marqué qui libère ces femmes religieuses, comme on disait, femmes religieuses, qui les libère d'obligations sociales, comme le mariage de raison ou l'économie de profit. Mais ce retrait ne les coupe pas de la société urbaine. Ce sont donc des associations de femmes informelles, sans hiérarchie véritable, qui s'arrogent une grande liberté de mouvement, parce qu'elles bougent, elles voyagent au début, elles marchent, elles ne sont pas toujours dans leur enclos. Elles n'ont pas de stabilité ni d'obéissance typique des moines, on les retrouve voyageant d'une communauté à l'autre. D'autres caractéristiques encore les distinguent de la vie monastique. Je vais les épeler. Les béguines ne vouent pas la pauvreté, mais elles promettent de vivre de façon humble et modeste. Dans nos contrées, je parle pour la Belgique, où les femmes peuvent hériter, c'est pas l'aîné de la famille seulement, le garçon qui hérite, mais les femmes héritent. Elles ont donc un douair, elles peuvent hériter et jouir de leur fortune. Elles restent propriétaires et elles sont autorisées à faire des legs ou des testaments. Ces femmes-là vont opter pour un vrai dénuement, comme en témoigne la simplicité du costume ou des maisons, et on va les dire humbles sans être pauvres. Voilà pour la pauvreté. Elles vivent chastement tant qu'elles résident, tant qu'elles relèvent de l'enceinte du béguinage, qu'elles peuvent quitter pour contracter mariage, ce qui arrive rarement, dit-on. C'est là une chasteté désirée et volontaire qui forme une sorte de troisième voie entre les mariages forcés et les prises de voile contraintes à l'époque. Voilà un type de vie qui ne promet jamais pour toujours, même si d'habitude il est durable, très simple aujourd'hui. Comme dira superbement un évêque d'Anvers, qui voulait protéger ses béguinages d'attaques renouvelées du Saint-Siège, parce qu'il y a eu des conciles qui voulaient supprimer les béguines, concile de la 32, concile de Vienne, etc. Eh bien, les évêques ont résisté. Voici comment un évêque d'Anvers l'a fait. Il écrit au Saint-Siège, au pape. Bien qu'il soit plus méritant de se consacrer à Dieu à travers les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, la nature des femmes belges est de telle complexion qu'elles préfèrent l'exécution libre d'un acte à l'exécution à laquelle on serait tenu par un vœu. Ils sont comme ça les Belges. Elles penchent pour une chasteté perpétuelle libre de toute contrainte. Elle place l'acte d'obéissance perpétuelle d'obéir au-dessus du simple vœu d'obéissance. Elle trouve préférable d'user avec modération des biens terrestres et de répéter souvent le renoncement à ces biens dans un but de bienfaisance ou de religion plutôt que de prendre en une fois congé de ce qui leur appartient et d'exécuter ainsi leur vie durant la pauvreté d'une manière qui n'est plus libre. En un mot, par les mérites de soumission libre et répétée, elle compense le manque de fécondité des vœux obligatoires. Voilà. Quelle pratique religieuse est-ce qu'elles ont? Ça semble minimaliste, ça semble comme tous les chrétiens de l'époque. Il leur est demandé d'assister dévotement aux célébrations dominicales, oui, aux sermons, aux vêpres, aux complies et aux saluts. D'autres dévotions animent leur journée, comme les prières à l'intention des fondateurs, bien sûr, ou le rosaire demandé par une confrérie. Les statuts les appellent à prier le petit office de la Sainte Vierge, la version light du bréviaire romain, tandis que les illettrés réciteront un certain nombre de pater et d'ave. On prie avant les repas, au réveil, au coucher. Les béguines assistent régulièrement aux processions en ville. On a ces tableaux hein, de processions de béguines hein, sous les yeux. Elles prient pour les morts, elles prient pour de bonnes récoltes, elles prient pour que la pluie vienne, puis pour qu'elle s'arrête, elles prient pour qu'on soit protégé des envahisseurs, etc. Elles prient pour la ville. Elles jeûnent le vendredi, la veille des fêtes, elles font abstinence le mercredi. Ça n'a quand même pas l'air très austère, même si... Voilà un arsenal, si vous voulez, d'activités spirituelles de type répétitif qui prendra bientôt, qui comprendra bientôt la confession et la communion aux 18 fêtes solennelles de l'Église qui est alors en usage, hein, au moins jusqu'au XVIe siècle. Donc vous êtes là devant un tableau de dévotion populaire plus que de liturgie monastique. La spiritualité est viscéralement christique et eucharistique. Il faut rappeler donc que le Concile de Latran, en 1215, a édicté l'obligation de la communion annuelle. Une fois par an, on est obligé de communier, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. On n'est pas obligé de se confesser une fois l'an, mais on est obligé de communier une fois l'an. Pour communier une fois l'an, il faut être en état de grâce. Donc reculer vers l'état de grâce, ça veut dire sans doute qu'une bonne confession est nécessaire aussi. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est la communion annuelle qui est obligatoire. Voilà. Eh bien, le siècle ne va pas finir sans l'instauration, grâce à Julien de Cornillon et à son milieu, de la fête Dieu à Liège, voir le Saint-Sacrement. Pas seulement communier, mais voir l'hostie, 1246. La réception du corps du Seigneur présent à chacune et qu'on peut voir à loisir explique le site eucharistique de beaucoup d'extase. Mais c'est encore le cas chez Thérèse d'Avila. La plupart de ces grandes relations rappellent des visions qui ont un site eucharistique. Voilà, donc Saint-Sacrement, le Christ, le Saint-Sacrement, une spiritualité pratique, tangible, qui vénère les saints comme des modèles à suivre aussi. On a étudié les patrons de 78 béguinages et on a montré, toujours dans la même étude, là, que ils se distinguent des élus vénérés dans les paroisses. Ce n'est pas les mêmes que dans les paroisses. Ces saints sont souvent des saintes, des vierges pour la plupart, et des vierges qui ont été en butte aux poursuites de prétendants. Ces prétendants ont été rejetés au péril de la vie des jeunes femmes. Il y a aussi, dans les saintes, des femmes mariées devenues veuves. Alors, du point de vue de la nomenclature, vous avez évidemment au premier rang la Vierge Marie, 21 fois sur 78, mais ce catalogue comprend aussi Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Élisabeth de Hongrie, Sainte Marie-Madeleine, forcément, Sainte Agnès, Sainte Marguerite, Sainte Barbe, enfin, les saintes au féminin. Comme les béguines méditent volontiers les mystères de l'humanité du Christ, on admet aujourd'hui que le grand thème de la Pietà, la mère qui reçoit son fils après la Passion, est issu des béguinages. Il apparaît dans les béguinages vers 1300 déjà. Dans ses attestations anciennes, Marie tient dans ses bras le Corpus Christi, en fait, qu'elle offre à tous. Elle est elle-même l'ostensoir qui présente l'Eucharistie. Voilà le modèle pour celle qui aimait à s'identifier à Marie dans son chemin de souffrance. Il faut aussi, également, porter au crédit de ces béguines ce qu'on a appelé la Trinité féminine, c'est-à-dire la représentation de Anne en vêtements de veuve qui tient la Vierge Marie, qui elle-même tient sur ses genoux l'enfant Jésus. C'est une trinité féminine qui comporte un homme, hein, puisque c'est l'enfant Jésus. À l'église Sainte-Anne à Rome, vous verrez encore cette trinité féminine. En tout cas, voici le symbole d'une généalogie par les femmes qui sera adoptée dans les milieux béguinaux. Voilà. Pour finir ce petit point sur les béguines, avant d'entrer chez Adowake, les béguines revendiquent une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Elles expriment souvent leurs expériences mystiques par le biais de la poésie, on va le voir. Cette poésie est inspirée par certains textes de la Bible, comme le Cantique des Cantiques, mais également par la lyrique courtoise occitane, sud donc, qui est elle-même influencée, devons-nous le dire, par l'islam. par l'islam. Voilà. Je viens maintenant chez Hathaway. Aucun document historique ne nous parle de sa vie. Seuls ses écrits nous renseignent sur son cheminement spirituel, que certains se sont attachés à reconstituer. Il y a eu un article dans la Grande Revue Vie consacrée qu'on vous a mis là à foison, parce que son mari David y travaille, moi je la dirige, alors imaginez. Donc son mari David écrit tout le temps dans cette revue, moi aussi d'ailleurs. Eh bien, on avait écrit dans cet article, dans cette revue, un article sur le chemin d'Hathaway. Et on avait essayé de montrer que, avec des citations d'Hathaway, elle a commencé par servir le Seigneur en toute beauté, ensuite elle a cheminé sur le sentier neuf, ensuite elle a trouvé, on va le revoir, que son silence le plus profond est son chant le plus beau, et puis finalement elle s'en va vers le rien pur et nu, mais ça c'est peut-être pas vraiment Hathaway, c'est peut-être... Une autre béguine qui se cache sous le nom d'Hathaway, qu'on appelle aujourd'hui Hathaway 2. Il y a une deuxième, Hathaway. Alors, pour venir aux œuvres d'Hathaway, puisqu'on ne la connaît que par là, elle est écrite, cette œuvre, en moyen néerlandais, en dit. C'est le néerlandais brabançon, si vous voulez. Hein, conservé dans 4 manuscrits, vous voyez celui de l'université de Gand. Et son œuvre se compose de visions, j'en parlerai pour finir, de lettres, très intéressantes, et de poèmes. Je commencerai par les poèmes. Ces poèmes se partagent en 45 poèmes strophiques, strophische, le dichten, 16 poèmes en rime plate, mengeldichten, poèmes mélangés, quoi. Et puis 13 autres poèmes qui ont été attribués à Hathaway 1, mais qui sont d'Hathaway 2, sans doute. Dans les poèmes strophiques, on dit qu'en réalité, elle ne forme qu'un seul poème. Et dans ce unique poème, elle ne fait Hathaway que chanter l'amour. L'amour, mine, mine. Mine, c'est apparenté au latin mimini, mens, ou à l'anglais mind. C'est un mot féminin qui implique à l'origine une présence dans la conscience d'un autre. Et l'autre, il est bemint. Aimer. Il reste donc présent dans la mémoire. C'est la fine amour des troubadours qu'Hathaway transfigure jusqu'à ce qu'il devienne un concept religieux de grande ampleur. On a donc ici la naissance d'une minotale, une langue de l'amour mystique, qui se crée et s'applique sans conteste à l'expérience la plus personnelle de Dieu, vous le verrez dans la vision. Parfois, elle se réfère aussi à l'homme-dieu, parfois au prochain, mais jamais à soi-même. On ne s'aime pas soi-même, ainsi. C'est un autre, quand même, ainsi. Donc, elle chante l'amour sous des aspects divers, dans une lyrique inspirée, on l'a dit, de la poésie des troubadours. Elle y évoque sans cesse l'union à Dieu. Il y a des poèmes en rime plate, etc. Je passe. Mais il y a aussi des visions, 14. Qui sont, comme c'est souvent le cas chez les prophètes et les visionnaires de la fin du Moyen-Âge, fortement inspirés de l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas les comprendre sans l'Apocalypse. Et puis il y a 31 lettres qui sont un véritable exposé de sa doctrine mystique, presque des lettres de direction spirituelle d'ailleurs. C'est une maîtresse, femme, spirituelle. Et il s'agit toujours de devenir Dieu avec Dieu, en gros. Devenir Dieu avec Dieu. On va voir un peu de plus près ce que ça veut dire. Voilà. Une des phrases fortes de Hathaway, c'est « Die Mine ist all », l'amour est tout. Ou tout est amour aussi. Hein. Je vous ai mis là sur la feuille de route un des poèmes. Mais vous voyez comme c'est paradoxal. Hein. On est dans la coïncidence des extrêmes tout le temps. Si vous lisez « Ce que l'amour a de plus doux, ce sont ses violences, son abîme insondable et sa forme la plus belle ». Se perdre en lui, c'est atteindre le but. Se perdre, c'est atteindre. Être affamé, c'est se nourrir. L'inquiétude, c'est un état sûr. Sa blessure la plus grave est un baume. Vous voyez, comme c'est contrasté. Hein, c'est un jeu, hein, c'est un jeu dans les mots. Lisez-le, je ne veux pas tout lire, mais c'est en se refusant qu'il se livre. Il est sans rime ni raison, et c'est sa poésie. s'il nous prend tout, quel bénéfice? Son silence le plus profond et son chant le plus haut. Sa tristesse console, etc. Voilà. Donc, l'amour est absence et présence, l'amour est douceur et violence, il est captivité et liberté, blessure et baume, faim et nourriture, inquiétude et sécurité. Cohabitation des contraires qui est à l'image d'un Dieu toujours plus absent dans sa présence. En s'éclipsant, il se fait découvrir. L'amour est souffrance et joie. Il rime avec la vie et avec la mort, avec l'être et le non-être. Il faut commencer comme ça, c'est la porte d'entrée. Si on ne comprend rien, ça ne fait rien. Accepter que c'est ainsi. Ce que l'amour a de plus doux, ce sont ses violences. On donne souvent ce texte comme une prière d'Adoé, ce n'est pas tout à fait une prière, hein, c'est un poème. D'autres écrits. Je prends comme fragment de ces lettres, un morceau d'ailleurs de la lettre 24, que je vous ai mis en partie donc, en feuille de route. C'est une sorte de direction spirituelle, c'est très impressionnant de voir comment, au Moyen-Âge, une femme dirige d'autres femmes. L'éditeur note qu'on a ici un intéressant enseignement sur la réconciliation extra-sacramentelle, je vous montrerai. Mais enfin, ça commence comme ça. « Permets-moi de te le dire sans détour, ne te contente de rien qui ne soit l'amour. » Vous êtes tout de suite dedans, hein. Vous êtes plongé tout de suite dans la piscine. Le père Porion, grand spécialiste aussi, quand il commente cette lettre, il note que ce qu'il dit dès le début de la raison est tout à fait caractéristique d'Adoé. Si on ne savait pas que c'était elle, on aurait déjà un indice là que c'est elle. Laisse à la raison le temps nécessaire et en toute occasion, demande-toi si tu lui as fait la place assez grande. Donc ce n'est pas un amour délirant, hein, c'est un amour plein de raisons. Ne t'arrête pas à aucune satisfaction au mépris de ta raison. C'est individu déjà. Voilà. L'adversité et la contrariété, vous allez le voir, sont ensemble. Donc, ne permets pas qu'un jour cela te paraisse une grande chose, servir grands et petits, les personnes saines ou malades. Plus elles sont malades et moins elles sont amies. Plus grand doit être la considération à laquelle tu les tiens et le soin que tu prends d'elles. Fais bon visage à la gens étrangère. Alors, gens étrangères, ce sont ceux du dehors, qui sont souvent des ennemis, des contradicteurs. S'ils multiplient les calomnies, ne réponds pas. Si quelqu'un te méprise, cherche sa compagnie, elle t'ouvrira le chemin de l'amour. Ne renvoie pas quelqu'un pour une contrariété. Donc, parce que quelqu'un t'a contrarié, tu le renvoies, tu le remballes, non ? Il ne faut pas qu'une contrariété t'empêche de recourir au conseil d'une autre personne quand tu ignores quelque chose. Car tu as devant Dieu le devoir d'acquérir tout le savoir qui t'est utile et qui est à ta portée, moyennant le travail, le dialogue, l'étude ou la pratique. Tout ça. Tout ça. Donc, l'adversité et la contrariété ne peuvent empêcher de recourir au conseil d'autrui. Puis voici quelque chose sur la réconciliation de l'époque. Hein. Si par ta faute tu as causé quelques préjudices au prochain, clarifie les choses aussitôt que possible. C'est comme l'évangile. Hein. La mort de notre Seigneur nous oblige à une pleine réparation si nous avons peiné quelqu'un. Dans ce cas, fais ce qui te paraîtra le meilleur pour rétablir la paix le plus tôt possible. Jette-toi à ses pieds du prochain pour dire quelques paroles de paix ou fais un arrangement. On est en Belgique, hein, ou fais un arrangement. Tu ne peux y échapper, encore que tu aies souffert quelques dommages, si tu prétends avoir Dieu comme amant et époux. Dieu comme amant et époux, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et si par orgueil tu ne le fais pas, tu t'attireras des peines bien lourdes. L'amour a des fureurs. Fais attention à ne pas prendre goût à quelque chose que ce soit au point que Dieu se voit obligé d'en retirer la grâce qu'il t'y réservait. Il te réserve une grâce dans les choses. Il ne faut pas faire tellement attention aux choses que tu n'y vois plus Dieu. Sinon, tu n'y trouveras même plus le goût. ne refuse aucun service par orgueil, n'ait pas honte d'offrir des cadeaux aux petits et pauvres. Non, mais quand même, c'est intéressant. Hein, ne renonce pas par orgueil à demander ce dont... Non, ce dont tu as besoin, la formule est revenue plus tôt, et dont tu ne peux te passer sans s'ouvrir de sérieux ennuis. Et de même, n'aie pas honte parce que tu as faim ou soif. Donc demande à manger, à boire, ou que tu as besoin de sommeil, ou parce que tu as froid, ou encore parce que tu as une infirmité humiliante, ou que tu as dit ou fait quelque chose qui ne sied pas, non ? C'est un grand honneur, au contraire, et marque de parfaite courtoisie, que de reconnaître ce qui nous fait honte, tandis qu'il y a beaucoup d'orgueil à se taire. Il y a plus de honte et de ridicule quand ce sont les autres qui nous le rappellent que si nous le faisons nous-mêmes. Et de toute façon, ce serait une dissimulation inutile et une déloyauté inexcusable vis-à-vis de Dieu, notre amant. C'est lui. Car l'amour et les normes de la parfaite loyauté exigent que l'amant se présente à l'aimé tel qu'il est, avec ses grandeurs et ses misères. Tout de même, il y a une leçon d'amour ici. Hein. Recommandation donc sur la espèce de préparation extra-sacramentelle. Hein. Simplicité pour les cadeaux, véritable humilité que Dieu notre amant exige, et puis retour sur le repentir devant Dieu seul, ou alors la confession au prêtre, selon le cas, regardez bien. Et je te dis ceci, si Dieu seul connaît ta faute, tu te repentiras devant lui seul. Confesse-la à Dieu et déplore-la en sa présence avec une conscience sincère, jusqu'à ce que Dieu écoute ta plainte, te pardonne ta faute et te donne sa grâce. La contrition parfaite remet le péché, n'est-ce pas ? C'est ça qui est dit là. N'attends pas le moment où tu auras la possibilité d'aller te confesser à un prêtre. Tu es déjà pardonné. C'est différent si tu as agi mal avec les autres. Tu dois montrer ton repentir. Mais comme je viens de le dire, si les fautes ont été seulement pensées, la confession se fera entre Dieu et toi. C'est audacieux, hein ? On peut penser que parfois les clercs étaient un peu étonnés, surpris, prudents. Que tes yeux se fixent sur Dieu en un acte parfaitement simple, sans autre contenu que sa pureté absolue, de sorte que tu ne puisses regarder autre chose, ni trouver quelque consolation en aucune autre. Alors, garde Dieu en ton cœur, par la mémoire. Retiens-le avec amour, en un cœur que dilate l'espérance. Toi, vertu théologale. Soupire après la suavité de son propre cœur et la cordialité de sa nature si cordiale. Il y a du cœur là-dedans. Hein. Alors, tu décideras ce qu'il convient de faire ou de laisser, pour mener une conduite irréprochable extérieurement et faire tout ce qu'il fallait. Tu sauras te conduire si tu te conduis par amour. Donc, il y a une suite de la lettre que je n'ai pas écrite, mais on verrait comment Adowake explique à un cœur jeune qui manque d'amour qu'il doit demander à Dieu son cœur aimant. Oui, tu manques d'amour parce que tu es jeune. C'est Dieu, à Dieu que tu dois demander cet amour. Tu dois appeler l'aimé, tu ne dois pas t'en aller sans avoir obtenu un résultat. Tu ne dois recevoir Dieu que de Dieu. La suite de la lettre. Et dans la finale, elle dit ceci, « Laisse s'enraciner dans ton cœur toutes les paroles de l'Écriture que tu écouteras et qui parlent de lui, que tu les lises toi-même ou que je te les ai signalées, moi, Adowake, hein, et celles que d'autres t'ont enseignées en néerlandais, dites, ou en latin. » On te les a enseignées. Donc vous voyez comment c'est une vie spirituelle qui est fondée dans l'Écriture et aussi dans une tradition reçue des autres. Hein. Plus encore, autant que dans des révélations intérieures qui ne font en somme qu'articuler l'écriture et la tradition qu'on a déjà reçue. Très, très orthodoxe, malgré les apparences. Alors j'ai osé vous recopier une vision extraite d'un recueil. Il y a des traductions différentes. On vient de refaire des traductions maintenant des visions, là. Mais c'est pour essayer de comprendre ce qu'alors on nommait extase. De quoi s'agit-il ? Il faudrait lire le texte, parce que ne croyez pas, parce que nous sommes nous des esprits pervertis, hein, et salaces, parce que nous sommes gâtés par l'érotisation de la société ambiante, ne croyez pas qu'il s'agit d'autre chose que de ce qui est dit là, que de ce qui est dit là. Un jour de Pentecôte, j'eus une vision à l'aube, en chantant matin à l'église, et je m'y trouvais. Donc en vision, de Pentecôte, je me trouve à l'église. Mon cœur, mes veines et tous mes membres frissonnaient et tremblaient de désir. Ça commence fort, hein? Ça va être toujours plus fort. Comme souvent auparavant, j'étais si bouleversée et effrayée qu'il me semblait que je ne pouvais satisfaire mon bien-aimé et que mon aimé ne pouvait me combler. Si vous avez lu les extases de Thérèse Avila, vous avez déjà appris quelque chose. Mourant, il me fallait tomber dans la fureur d'amour. Alors, fureur d'amour, au reroute, c'est la tempête. Hein. Et dans la fureur d'amour, il me fallait mourir. L'amour de désir, le désir de l'amour, me remplissait de peur et de douleur, si bien que tous mes membres semblaient se rompre l'un après l'autre, tandis que se tordait chacune de mes veines. Le désir qui m'emplit alors ne peut être exprimé par nulle parole, par nul être que je sache. Ce que je peux en dire est inouï pour tous ceux qui ne connaissent pas l'amour comme un bien qu'il faut désirer et qui n'ont jamais été reconnus par l'amour. Vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas fait l'expérience. Voici ce que j'en puis dire. Je désirais jouir pleinement de mon aimé, le connaître et le savourer en totalité. Que son humanité, on est dans l'humanité, hein, s'unisse fruitivement à la mienne et que celle-ci, en lui soit si stable et si forte qu'elle parvienne à la perfection jusque le satisfaire lui, le tout parfait. Que pur et unifié, je le satisfasse pleinement en portant chaque vertu dans la douleur. Et je voulais qu'en un seul esprit, intimement, il jouisse de moi avec sa divinité, qu'il soit pour moi tout ce qu'il est sans réserve. On veut être un. Car de tous les biens désirés, celui que j'ai choisi, c'est de le satisfaire en toute grande souffrance. La satisfaction totale, c'est de croître pour être Dieu avec Dieu. Être dans la souffrance, la peine, la misère, dans des chagrins renouvelés, laisser tout aller et venir sans être chagriné et n'en tirer d'autre goût que le doux amour, dans l'embrassement et le baiser. C'est ainsi que je désirais que Dieu soit avec moi pour le satisfaire. Voilà, ça c'est la situation. Alors, dans cet effroi, je vis un grand aigle voler de l'autel. On est dans l'église, hein. Donc il y a un événement là qui se passe, une intervention issue de l'autel. Il vint jusqu'à moi et il me dit, si tu veux parvenir à l'unité, il faut te préparer. Je tombai à genoux et mon cœur se mit à battre la chamade pour adorer l'unique dans sa haute dignité, chose impossible pour moi, je le sais bien, et Dieu le sait, pour ma peine et mon chagrin incessant. Il faut se préparer, mais on ne peut pas. L'aigle se tourna. Il vient du côté de l'autel, donc il se retourne vers l'autel et dit, juste et puissant Seigneur, manifestez maintenant votre force capable d'unir quelqu'un à vous pour le faire jouir de vous-même. Donc cet aigle, c'est le Christ hein, qui parle au Père. Et de nouveau, il se retourna vers moi et me dit, énigmatique, hein, celui qui est venu reviendra. Et là où il n'est jamais venu, il ne viendra pas. Je ne peux pas faire l'exégèse. Là-dessus, il descendit de l'autel sous l'apparence de l'enfant qu'il était dans ses trois premières années. Donc, le Christ lui apparaît, le Seigneur puissant lui apparaît d'abord sous la forme d'un aigle qui devient un enfant. Cet enfant porte un ciboire. Hein. Il se tourna vers moi et du ciboire, sur l'autel, prit son corps dans sa main droite. Dans la gauche, il prit un calice qui semblait venir de l'autel, mais d'où venait-il réellement, je n'en sais rien. En même temps, il vint avec les vêtements et l'allure de l'homme qu'il était le jour où il nous donna son corps pour la première fois. Donc le site est eucharistique, hein, vous voyez bien. c'est de suivre quand il nous donna son corps pour la première fois. Il avait l'aspect d'un être humain, homme doux et beau, avec une figure rayonnante. Et il vint vers moi, aussi humblement que quelqu'un qui appartient à un autre totalement. Et il se donna à moi, sous les signes et les espèces du sacrement, comme c'est la coutume. Donc, il y a une communion. Il est communié des mains du Christ, il est communié du Christ. Puis il m'a donné à boire le calice, sous l'apparence il y avait le coup du vin, comme c'est la coutume. On communie encore sous les deux espèces au XIIIe siècle. Puis il vint à moi, c'est un moment d'étreinte, si vous voulez, il me prit tout entier dans ses bras et me serra contre lui, de telle sorte que tous mes membres sentaient les siens, tant qu'il leur plaisait, et comme mon cœur et mon humanité le désiraient, c'est ce qu'il a demandé, de l'extérieur, je reçus l'accomplissement jusqu'à la pleine satisfaction. Il fait don de lui-même, hein, sous les espèces et figures du sacrement. Et puis, il s'efface. Je fus moi-même en mesure de le supporter pendant un certain temps, mais alors, peu après, je perdis l'homme, beau, sous un aspect extérieur. Quelque chose s'efface. Ses formes disparurent à mes yeux, je les vis s'évanouir et nous fondîmes en un. Alors, nous fondîmes en un. Ce qu'elle veut. Si bien que je ne pouvais ni le reconnaître ni le percevoir en dehors de moi, et il était en moi sans séparation, et je ne pouvais le distinguer de moi. À ce moment-là, il me semblait que nous étions un sans différence. C'est ce qu'elle cherche. In. Donc le sacrement est goûté par la vision et par le sens, et puis on se perd sans réserve l'un dans l'autre. Regardez, dans l'union extérieure, on pouvait goûter, sentir de la même manière que dans la réception du sacrement, on peut voir, goûter, sentir de l'extérieur. De même, le bien-aimé peut recevoir l'aimé en toute jouissance de vue, d'ouïe, pour une fusion mutuelle. De cette manière, je passais dans mon bien-aimé pour me fondre en lui sans qu'il restât rien de moi-même, et je fus transporté dans un autre état et élevé en esprit. Là, j'ai la révélation de plusieurs heures. Alors, je ne sais pas si ça veut dire pendant plusieurs heures, ou bien c'est l'annonce des heures canoniales qui suivent. Donc, sans réserve l'un dans l'autre, en sorte que de moi-même, rien ne demeura. Le père Paul Montmartre commente comme ceci, n'est-ce pas ? Comme mystique, Adewake se distingue de bon nombre de ses consoeurs. Parce qu'elle ne considère pas, malgré les apparences, la jouissance extatique comme l'apogée de la quête mystique. S'il faut choisir un point essentiel de la vision mystique de Adewake sur Dieu, c'est incontestablement son intuition de l'humanité de l'homme-Dieu qui ressortirait. Quant à l'expérience mystique humaine, oui, elle recèle des moments de béatitude, mais plus encore des moments de souffrance et de déréliction. Loin de s'exclure, les éléments antithétiques sont ici sublimés. Le secret de la paix, c'est de goûter le divin et l'humain fusionnés en un. In-in. In-in, c'est elle qui parle comme ça. In-in, en un mot. Alors, voilà, on se trouve là dans quelque chose qui est la mystique de l'amour. Est-ce qu'on est déjà dans la mystique de l'être, comme on le dira plus tard de Eckhart? Ça, c'est une discussion difficile aussi à dirimer en deux ou trois mots. Mais parmi les spécialistes de la mystique rhéno-flamande, les controverses sont nombreuses entre les partisans de la mystique de l'essence, de l'être, Wesen mystique, suspect, et ceux de mystique nuptiale, Braut mystique, comme on dit en allemand, qui semble en fait plus rassurante, mais il n'est pas sûr qu'elle le soit. Enfin, ce sont des mystiques qu'on oppose souvent. Faut-il le faire? Bien sûr, il y en a une qui se plaît à honorer les moyens de l'union, à se trouver dans un dialogue éternel, etc. Un peu abstrait d'ailleurs dans l'être. Tandis que l'autre, la mystique nuptiale, est plus empressée à dépasser des intermédiaires. Elle court vers l'abîme de l'unité, mais ou vont disparaître, c'est vrai, comme dira Rosebrook, les personnes, les modes et les noms. Mais c'était une mystique qui commençait à deux, même s'il finit à un. On peut quand même affirmer que cette opposition est provisoire et superficielle. Si c'est une mystique intellectuelle comme la mystique de l'être, et qu'elle prétend se passer des vertus ou des sacrements au lieu de s'en servir, si elle méprise l'action et l'affection au lieu d'y voir des éléments nécessaires d'une conversion de tout homme à l'essentiel, alors c'est une mystique étrangère. On est dans le bouddhisme, on n'est pas dans la mystique chrétienne. Les cathares du Nord s'en sont fait les adeptes et ils ont abandonné la tradition chrétienne. Mais cette mystique nuptiale, quand elle touche à la mystique de l'être, elle peut parfois se trouver vécue parfaitement accordée chez les mêmes personnes. Elles sont présentes à la fois dans un équilibre chez des écrivains spirituels que l'Église a mis sur les autels et dont l'influence à travers les siècles est un fleuve d'eau vive. Donc elle est très hardie, la deuxième mystique, celle de la mystique nuptiale, celle qu'on rencontre ici. Mais elle n'altère pas la pureté de ses formules, elle les intègre dans le texte de la doctrine. C'est un dialogue ininterrompu avec l'écriture, vous l'avez remarqué, hein, notamment avec l'Apocalypse ici. Donc, chez Hathaway, dit le père Porion, tout est vu dans la lumière de l'amour, mais l'amour est à la fois le moyen et la fin. Dans la tradition dont Hathaway relève les cisterciens, la poésie courtoise, etc., on voit s'amorcer chez elle une évolution très remarquable dans l'expérience et dans l'expression. On passe parfois du registre de la mystique nuptiale à la mystique plus spéculative. On est dans l'être, on y va par la mystique nuptiale. On passe de l'amour cherché dans toute sa pureté à la contemplation de l'essence divine. Mais c'est grâce à l'humanité du Christ, il faut le répéter. Ce passage sera surtout représenté alors, ensuite par Maître Eckhart qui avait comme auditoire des auditoires de Béguin, mais après ça c'est fini, parce que la voie ouverte par Ignace de Loyola, ça sera vraiment autre chose. Mais ça vous verrez après les vacances. Je vous remercie.